Monsieur Flaubert, je vous remercie de votre accueil si aimable. Vous venez d'achever un nouveau roman. Il est paru dans la Revue de Paris entre octobre et décembre de l'an dernier. Votre roman, Madame Bovary, Mœurs de province, raconte le destin de la femme d'un apothicaire. Tout d'abord, je voudrais vous demander combien d'années avez-vous travaillé à ce roman?
Ah, je vous remercie d'abord pour votre interview. Et c'est avec plaisir que je vous reçois, cher ami. Vous venez de loin et je me réjouis que vous vous intéressiez à mon roman qui, d'ailleurs, me cause des ennuis avec la justice. Ah, ne m'en parlez pas. C'est très embêtant. Mais vous disiez...
Quand avez-vous commencé votre roman?
Si je me rappelle bien, c'était le 19 septembre 1851, quelques jours avant mon départ pour Londres.
C'était un début facile?
Ah non. Au début et tout au long de la rédaction, j'ai dû toujours me répéter, ce roman me tourmente, je me gratte, vous savez, ce roman a eu du mal à se mettre en train. J'avais des abcès de style et la phrase m'a démangé sans aboutir.
Il semble que vous ayez souffert, monsieur.
Oh, bien plus que vous n'y pensez. Quel lourd aviron qu'une plume, et combien l'idée, quand il faut creuser avec, est un dur courant.
Vous n'avez pas écrit au fil de la plume?
Cela dépend toujours de mon humeur. Parfois, j'ai passé une bonne journée, la fenêtre ouverte, vous voyez, avec le soleil sur la rivière... et la plus grande sérénité du monde. Ensuite, j'ai écrit une page et en ai esquissé trois autres.
Ressentez-vous un bonheur en écrivant?
Oui et non. La couleur où je trempe est tellement neuve pour moi et que j'en ouvre des yeux ébahis. Je gâche un papier considérable, vous voyez. Que de ratures. La phrase est bien lente à venir. On y soit les sujets simples.
Cela ressemble à une torture.
Oui, si vous saviez combien je m'y suis torturé, vous auriez pitié de moi.
Aviez-vous préparé un plan pour votre livre?
Comment voulez-vous que je travaille autrement? Autant je suis débraillé dans mes autres livres, autant dans celui-ci j'ai tâché d'être boutonné et de suivre une ligne droite, géométrique. Nul lyrisme, pas de réflexion, personnalité de l'auteur absente. Ce sera triste à lire, vous savez.
Vous avez dit 6 années d'écriture?
Au début, je voulais faire vite, mais je n'ai pas fait plus de 5 à 6 pages par semaine, voyez.
Vous évitez d'être présent dans votre roman?
Ah, vous l'avez remarqué, en effet. Je veux qu'il n'y ait pas, dans mon livre, un seul mouvement, ni une seule réflexion de l'auteur.
Dites-moi, monsieur, vous êtes satisfait du résultat?
Oh, toute la valeur de mon livre, s'il en a une, sera d'avoir su marcher droit sur un cheveu suspendu entre le double abîme du lyrisme et du vulgaire, que je veux fondre dans une analyse narrative. Quand je pense à ce que cela est devenu, j'en ai des éblouissements. Mais lorsque je songe ensuite que tant de beauté m'est confiée, à moi, j'ai des coliques d'épouvante, à fuir, me cacher n'importe où.
Et vos personnages?
Difficile à inventer, je vous dis. Quelle difficulté qu'une narration psychologique pour ne pas toujours rabâcher les mêmes choses. C'est difficile, vous savez.
Alors, quelle place donnez-vous aux personnages dans votre récit?
J'étais souvent harassé. Parfois, j'ai un pincement à l'occiput et à la tête lourde, comme si je portais dedans un quintal de plomb. Bovary m'a souvent assommé. Parfois, pendant une semaine, je n'ai écrit seulement que 3 pages, et encore, dont je n'étais pas enchanté. Ce qui est atroce de difficulté, c'est l'enchaînement des idées, et qu'elles dérivent bien naturellement les unes des autres.
Je voudrais aussi savoir si vous avez entrepris des études pour votre livre.
Bien entendu. Par exemple, attendez, laissez-moi réfléchir. Ah oui, c'était en juillet 1852, je pense, que j'ai été un comice agricole, dont j'en suis revenu d'ailleurs, mort de fatigue et d'ennui. J'avais besoin de voir une de ces ineptes cérémonies rustiques pour ma Bovary, dans la deuxième partie. C'est pourtant là ce qu'on appelle le progrès et où converge la société moderne.
Là, vous parlez certainement de la scène devant la mairie, à l'occasion du comice qui, il me paraît, vous est particulièrement bien réussi. Les scènes entre l'orateur qui parle sur la place et sur le balcon Emma avec son amant.
Cette altercation vous plaît, n'est-ce pas? Eh bien, à moi aussi.
Mais il fallait beaucoup de temps d'élaborer ces procédés. Vous avez développé toute une esthétique de l'écriture.
Oui, vous avez raison. Je vous ai déjà dit que j'ai souffert. La Bovary a marché à pas de tortue. J'en étais désespéré par moments. Souvent, c'est-à-dire pendant 3 ou 4 mois, à plusieurs reprises, j'avais peur que ça ne continue ainsi. Quelle lourde machine à construire. Qu'un livre est compliqué, surtout. Il fallait y mettre une forme profondément littéraire.
Vous pensez surtout au dialogue ?
Décidément, oui. Mais comment faire du dialogue trivial qui soit bien écrit ? Il le faut pourtant, il le faut. Puis, quand j'allais être quitte de cette scène d'auberge, je risquais de tomber dans un amour platonique déjà ressassé par tout le monde, et si j'ôte de la trivialité, j'ôterais de l'ampleur, vous voyez. Dans un bouquin comme celui-là, une déviation d'une ligne peut complètement m'écarter du but, me le faire rater tout à fait.
On dirait c'était un travail d'horloger.
Cette expression me plaît, oui, c'est cela, d'horloger. Au point où j'en suis, la phrase la plus simple a pour le reste une portée infinie. De là tout le temps que j'y mets, les réflexions, les dégoûts, la lenteur.
Mais la durée de votre roman crée du suspense.
Vous croyez? Oh, tant mieux. L'enchaînement des sentiments m'a donné un mal de chien. Et tout dépend de là dans ce roman, en fait. Car je maintiens qu'on peut tout aussi bien amuser avec des idées qu'avec des faits, mais il faut pour cela qu'elles découlent l'une de l'autre comme une cascade, comme de cascade en cascade, et qu'elles entraînent ainsi le lecteur au milieu du frémissement des phrases et du bouillonnement des métaphores.
Avez-vous des modèles ?
Non, c'est-à-dire oui, moi-même. Je les ai découverts par hasard. J'étais une fois comme tout épouvanté, et j'ai tout de suite écrit à mon ami pour ne pas rester seul avec moi, comme on allume sa lampe la nuit quand on a peur. Il m'était arrivé quelque chose de bien drôle. J'ai demandé à Louise Collet si elle a lu un livre de Balzac qui s'appelle Louis Lambert.
Et alors ?
J'avais acheté ce roman en décembre 1852. Il m'a foudroyé. C'est l'histoire d'un homme qui devient fou à force de penser aux choses intangibles. Cela s'est cramponné à moi par 1000 hameçons. Ce Lambert, à peu de choses près, eh bien, c'est mon pauvre Alfred. J'ai trouvé là de nos phrases, dans le temps presque textuel. Les causeries des deux camarades au collège sont celles que nous avions, ou analogues. Pourtant, en me mettant à ma table pour l'écrire, la vue du papier blanc m'a calmé. Quel sacré livre! Il me fait mal, comme je le sens.
Entre-temps, vous êtes revenu de ce choc, de cette surprise, n'est-ce pas?
Ah, certainement, il faut se dire, tout ce qu'on invente est vrai. Soyez-en sûr. La poésie est une chose aussi précise que la géométrie. L'induction vaut la déduction, et puis, arrivé à un certain point, on ne se trompe plus quant à tout ce qui est de l'âme. Ma pauvre Bovary, sans doute, souffre et pleure dans 20 villages de France à la fois, à cette heure même, voyez.
Je pourrais vous demander quelques précisions sur votre style. Vous y travaillez beaucoup ?
Mon style, le vieux projet que j'avais d'écrire plus tard, mes mémoires, m'a quitté. Rien de ce qui est de ma personne ne me tente. Je ne sais pas pourquoi. Les attachements de la jeunesse ne me semblent plus beaux. Que tout cela soit mort et que rien n'en ressuscite. À quoi bon ? Un homme n'est pas plus qu'une puce. Nos joies comme nos douleurs doivent s'absorber dans notre œuvre. On ne reconnaît pas dans les nuages les gouttes d'eau de la rosée que le soleil a fait monter. Évaporez-vous, pluie terrestre, larme des jours anciens, et formez dans les cieux de gigantesques volutes, toutes pénétrées de soleil.
On dirait que vous êtes tenté par une sorte de métamorphose.
C'est le mot qui convient. Je suis dévoré maintenant par un besoin de métamorphose. Je voudrais écrire tout ce que je vois, non tel qu'il est, mais transfiguré. La narration exacte du fait réel le plus magnifique me serait impossible. Il me faudrait le broder encore.
Et votre roman, que signifie-t-il pour vous ?
Eh bien, La Bovary est pour moi un exercice excellent. Et il me sera peut-être funeste plus tard comme réaction. car j'en aurais pris, ceci est faible et imbécile, un dégoût extrême des sujets à milieu commun. C'est pour cela que j'avais tant de mal à l'écrire, ce livre. Il me fallait de grands efforts pour m'imaginer mes personnages et puis pour les faire parler, car ils me répugnent profondément.
Madame Bovary, son époux et les autres ?
Oui, je vous l'ai dit, ils me répugnent tous profondément. Mais quand j'écris quelque chose de mes entrailles, ça va vite. Cependant, voilà le péril. Lorsqu'on écrit quelque chose de soi, la phrase peut être bonne, par jet. Et les esprits lyriques arrivent en effet facilement et en suivant leur pente naturelle. Mais l'ensemble manque. Les répétitions abondent, les redites, les lieux communs, les locutions banales.
Et ensuite, l'imagination, quelle est sa part ?
Quand on écrit au contraire une chose imaginée, comme tout doit alors découler de la conception et que la moindre virgule dépend du plan général, l'attention se bifurque. Il faut à la fois ne pas perdre l'horizon de vue et regarder à ses pieds.
Mais vous évoquez aussi beaucoup de détails.
Bien sûr, le détail est atroce, surtout lorsqu'on aime le détail comme moi. Les perles composent le collier, mais c'est le fil qui fait le collier. Or, enfiler les perles sans en perdre une seule et toujours tenir son fil de l'autre main, voilà la malice.
Vous cherchez souvent le bon mot, monsieur ?
Oui, cela peut durer. Cela valait mieux que la monnaie courante d'à présent. On était monté à un tel ton que l'on rencontrait quelquefois un bon mot, une bonne expression. Il y aurait du reste, sur ce malheureux livre, une belle leçon à faire. Comme le socialisme perçait déjà, comme la préoccupation de la morale rend toute œuvre d'imagination fausse et embêtante.
Vous tournez à votre critique, monsieur.
Oui, si vous voulez bien, je tourne beaucoup à la critique. Le roman que j'écris m'aiguise cette faculté, car c'est une œuvre surtout de critique, ou plutôt d'anatomie. Le lecteur ne s'apercevra pas, je l'espère, de tout le travail psychologique caché sous la forme, mais il en ressentira l'effet. Que de choses flottent encore dans les limbes de la pensée humaine. Ce ne sont pas les sujets qui manquent, mais les hommes.
Parfois vous étiez presque bloqué, un arrêt d'écriture ?
Cela m'est arrivé souvent, de temps en temps j'ai passé deux exécrables journées. Il m'a été impossible d'écrire une ligne, ce que j'ai juré, gâché de papier et trépigné de rage, c'est impossible à savoir. J'avais à faire un passage psychologico-nerveux des plus déliés et je me perdais continuellement dans les métaphores au lieu de préciser les faits. Ce livre, qui n'est qu'en style, a pour danger continuel le style lui-même.
Pourquoi un livre peut-il mettre en danger le style ?
Il met en danger le style car il risque de dépasser son auteur. Écoutez, la phrase me grise et je perds de vue l'idée. L'univers entier me sifflerait aux oreilles que je ne serais pas plus abîmé de honte que je ne le suis quelquefois. Qui n'a senti de ces impuissances où il semble que la cervelle se dissout comme un paquet de linge pourri et puis le vent ressouffle, la voile s'enfle. Ce soir, en une heure, j'ai écrit toute une demi-page. Je l'aurais peut-être achevé si je n'eusse entendu sonner l'heure.
Une fois, vous décrivez une opération.
Le passage, oui, est assez réussi et l'opération était un échec. Ah ! Or, c'était un dur passage. Il fallait amener insensiblement le lecteur de la psychologie à l'action sans qu'il s'en aperçoive. Je vais entrer maintenant dans la partie dramatique et mouvementée. Encore deux ou trois grands mouvements et j'apercevais la fin. Que de mal j'avais eu, mon Dieu ! Moi et pas seulement le patient. Que de mal ! Que d'échinement et de découragement ! Toute une soirée, je m'étais livré à une chirurgie furieuse. J'avais étudié la théorie des pieds beaux. J'ai dévoré en 3 heures tout un volume de cette intéressante littérature et pris des notes.
Cela a certainement pris beaucoup de temps ?
Ah oui, je vous assure, il faudrait tout connaître pour tout écrire. Tout temps que nous sommes écrivassiers, nous avons une ignorance monstrueuse et pourtant, comme tout cela fournirait des idées, des comparaisons, la moelle nous manque généralement.
Vous avez hésité parfois ?
Oui, par exemple, quand j'allais faire exposer à Homais des théories gaillardes sur les femmes. J'ai peur que ça ne paraisse un peu trop voulu.
Vous étiez sans doute bien content quand votre roman était terminé.
Ah, vous pouvez en être sûr. Enfin, quel cauchemar. Au début, je comptais 2 ans et finalement, cela a duré 6 ans. Quel cauchemar, je vous le répète.
La revue de Paris.
La revue de Paris du 1er août m'a annoncé, mais incomplètement, en écrivant mon nom sans L. Madame Bovary meurt de province par Gustave Faubert. C'est le nom d'un épicier de la rue Richelieu, en face du Théâtre Français. Ce début ne me paraît pas heureux, croyez-moi. Qu'en dites-vous ? Je ne suis pas encore paru, que l'on m'écorche déjà.
Je n'y pense pas, au contraire, je m'imagine que vous aurez un grand succès avec votre roman.
Oh, c'est très gentil de votre part, monsieur, mais on me fait déjà savoir que la justice s'intéresse à mon livre. Si elle va en comprendre quelque chose, alors là, je suis sceptique.
Vous en sortirez indemne, j'espérons-le. Toutefois, monsieur, je vous remercie très vivement de m'avoir accueilli et d'avoir répondu à mes questions.
Ce fut un grand plaisir pour moi de vous recevoir.